France Inter.
Aujourd'hui, nos ancêtres, pas si gaulois, racontés par...
Jean-Paul Demoule, archéologue, historien et ancien professeur à l'Université de Paris 1.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
La France vient du fond des âges, elle vit, les siècles l'appellent, mais elle demeure elle-même au long du temps. Ses limites peuvent se modifier sans que change le relief, le climat, les fleuves, les mers qui la marquent indéfiniment. Y habitent des peuples qu'étreignent au cours de l'histoire les épreuves les plus diverses, mais que la nature des choses, utilisée par la politique, pétrit sans cesse en une seule nation. Celle-ci a embrassé de nombreuses générations, elle en comprend actuellement plusieurs, elle en enfantera beaucoup d'autres, mais de par la géographie du pays, qui est le sien, de par le génie des races qui la composent, de par les voisinages qui l'entourent, elle revêt un caractère constant qui fait dépendre de leur père les Français de chaque époque et les engage pour leurs descendants. À moins de se rompre, cet ensemble humain sur ce territoire, au sein de cet univers, comporte donc un passé, un présent, un avenir indissoluble. Aussi l'État qui répond de la France est-il en charge à la fois de son héritage d'hier, de ses intérêts d'aujourd'hui et de ses espoirs de demain ? Nécessité vitale qui, en cas de péril public, s'impose tôt ou tard à la collectivité. Dès lors, pour un pouvoir, la légitimité procède du sentiment qu'il inspire et qu'il a d'incorporer l'unité et la continuité nationale quand la patrie est en danger. En France toujours, c'est en raison de la guerre que les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens, les Bonaparte, la Troisième République, ont reçu et perdu cette autorité suprême, celle dont, au fond du désastre, j'ai été investi à mon tour dans notre histoire, a été reconnue d'abord par ceux des Français qui ne renonçaient pas à combattre, puis à mesure des événements, par l'ensemble de la population, enfin à travers beaucoup de heurts et de dépit par tous les gouvernements du monde, par tous les gouvernements du monde. Grâce à quoi j'ai donc pu conduire le pays jusqu'à son salut. Charles de Gaulle, Mémoire d'espoir, tome 1. Bonjour Jean-Paul Demoule.
Bonjour.
Vous publiez La France éternelle, une enquête archéologique. C'est aux éditions La Fabrique. Votre livre s'ouvre donc sur cette citation que je viens de lire de Charles de Gaulle affirmant que la France vient du fond des âges. Pourquoi est-ce que vous avez commencé par ce texte ?
Justement, en tant qu'archéologue et historien, je me suis dit, et français, je me suis dit, c'est quoi le fond des âges ?
Ah oui.
Donc j'ai voulu aller jusqu'au fond des âges, c'est-à-dire les premières présences humaines sur l'actuel territoire français, et ensuite en 12 chapitres chronologiques jusqu'au 21e siècle, je me suis demandé à chaque fois c'est quoi les Français à cette époque, quel est de tracer les frontières de la France, quelle langue ils parlaient, quelle culture, quelle population, d'où venaient-ils, étaient-ils là depuis le fond des âges, etc. etc.
Et vous êtes d'accord avec ce que dit De Gaulle en l'occurrence dans ce texte
Non, j'ai le plus grand respect pour le général De Gaulle par ailleurs, qui a sauvé l'honneur de notre pays, alors que les descendants de Pétain existent toujours, mais il a faux sur les deux plans. C'est-à-dire, quand il dit « le relief a jamais changé », au contraire, il y a une série de glaciations où le niveau des mers changeait, il y avait tout le nord de la France était inhabitable, etc. etc. Et par ailleurs, pour le fond des âges, pour les humains, cette fois, et pas seulement le relief, j'imagine qu'on va en parler.
Oui, donc ça veut dire que le fond des âges du général de Gaulle, il s'arrête finalement à une période qu'il faudrait explorer encore plus lointain.
Dans l'état actuel des recherches archéologiques et préhistoriques, les plus anciennes présences humaines, elles datent d'un million, 1 200 000 dans le Languedoc en particulier. Oui. Encore qu'on n'a pas d'ossements avant moins 500 000. Ce qu'on a, c'est des outils incontestablement taillés. Mais effectivement, on n'a pas grand-chose. Donc, du coup, on ne peut pas bien savoir quelle langue ils parlaient et comment ils s'appelaient eux-mêmes, etc. C'est ce qu'on appelle des Homo erectus. L'évolution humaine, enfin les premières formes humaines après notre séparation de nos cousins grands singes, elles apparaissent vers 6-7 millions d'années. Et puis l'évolution se fait en fonction de la sélection naturelle. On débouche donc il y a 2 millions d'années sur les Homo erectus.
C'est ça, le genre Homo émerge à ce moment-là. La première française a été une immigrée, oui. Jean-Paul de Moulin.
Oui,
c'est pas une provocation de le dire, c'est un fait scientifique.
Hein. Parce que s'il n'y avait pas eu de, française Homo erectus ou Homo erecta, on ne serait pas là.
Ouais, et donc arrivant d'Afrique. C'est notre histoire africaine.
Il faut l'admettre, mais jusqu'à 2 millions d'années, toute l'évolution humaine, sauf découverte fracassante, s'est faite en Afrique. Et ouais. C'est il y a 2 millions d'années qu'effectivement certains erectus et erecta un peu plus curieux se sont dirigés vers l'Asie et vers l'Europe, et donc la France, en continuant d'évoluer.
Ouais. Erecta, c'est quoi? C'est le féminin d'erectus?
Voilà, c'est ça. C'est pas tout à fait admis, mais j'en profite.
Mais vous l'employez. Voilà. Parce que justement, les femmes sont très présentes, hein, dès le début d'ailleurs de votre ouvrage. Pourquoi vous insistez d'ailleurs sur leur rôle?
Parce que d'habitude, on n'insiste pas dessus. Hein. On se rappelait que les femmes ne votent que depuis 1946, un des derniers pays à l'avoir établi, qu'elles ne peuvent avoir un compte en banque depuis les années 70, qu'elles sont chefs de famille à égalité avec le mari un peu plus tard. Donc effectivement, c'est intéressant de...
Oui, et puis la préhistoire a quand même longtemps été racontée au masculin, quand même.
C'est aussi ça. Hein.
Si on remonte encore plus loin, c'est que...
C'est les fameuses illustrations où on voit les hommes vigoureux qui rentrent de la chasse, et les femmes assises par terre, le sein découvert, en train de faire la cuisine ou de nourrir les enfants.
Voilà, donc il faut revenir sur ces images, et on essaie de le faire régulièrement avec les scientifiques qu'on reçoit à ce micro, Jean-Paul de Moule. À quel moment arrivent justement les Homo sapiens? Alors là, sur le territoire français...
Oui. L'évolution... se continue, donc les erectus arrivés sur le territoire français il y a 1 million d'années deviennent petit à petit des hommes ou femmes de Néandertal il y a à peu près 300 000 ans, ceux qui sont en Asie vers d'autres formes, et ceux qui sont restés en Afrique, qui n'avaient pas envie de bouger, ça donne les Homo sapiens il y a à peu près 300 000 ans. La plus ancienne attestation actuellement, c'est au Maroc, au Djebel Irhoud. Et donc, certains, là encore, curieux, sortent entre guillemets d'Afrique, sûrement en plusieurs occasions, à chaque génération on va un peu plus loin.
Donc ça prend un peu de temps, hein,
oui,
quand même. Entre 300 000 ans et l'arrivée en France,
oui,
en fait, il s'écoule combien de temps?
C'est vers. Ils sont attestés actuellement en France aux alentours de 40 000 ans.
Oui. Et donc, ils cohabitent avec les Néandertaliens.
Néandertaliens,
à ce moment-là.
Et il y a des histoires d'amour entre les deux, si bien que vous et moi, on a quelques gènes néandertaliens
absolument
au fond de notre génome.
Et ça a été un premier grand remplacement, si on emploie ce terme.
Les sapiens ont grand remplacé les Néandertaliens. Nos 2-3% de gènes, on ne sait pas exactement pourquoi, on n'a pas de preuve de massacre, on leur a peut-être apporter des maladies. Ce que la génétique semble montrer, c'est qu'ils étaient plus... Chaque groupe était plus replié sur lui-même, alors que les sapiens avaient des liens à plus longue distance qui leur permettaient de mieux résister en cas de problème.
Est-ce que ce terme de grand emplacement, vous l'utilisez facilement, Jean-Paul de Moule?
Oui, je l'ai...
Vu l'écho qu'il a aujourd'hui dans l'actualité
je
politique.
Je l'utilise au deuxième degré, effectivement, puisque c'est une espèce de, comme ça, de phobie. J'essaie de montrer que...
Il y en a eu déjà dans le passé, et que ça ne s'est pas si mal passé que ça, finalement.
Jusqu'à présent, oui. Ouais.
Les grands ornées, celles qu'on connaît bien, Chauvet, Lascaux, est-ce que ça dit quelque chose aussi de l'identité française?
Pas plus française qu'ailleurs, parce que c'est un même... d'abord, pour avoir des grottes ornées, il faut qu'il y ait des grottes, donc il n'y en a pas partout en Europe. Mais en tout cas, ce qu'on va trouver dans le sud de la France, notamment le sud-ouest, c'est la même chose que ce qu'on va trouver dans le nord de l'Espagne. Donc, à l'époque, ce qu'on appelle les cultures, c'est-à-dire à chaque fois des régions caractérisées par telle forme d'outils, l'art rupestre, etc., ça ne coïncide absolument pas avec l'actuel territoire français.
Il y a beaucoup de changements climatiques aussi,
oui,
c'est
sûr,
une histoire importante de notre territoire.
Oui.
À la fin de la dernière glaciation, qu'est-ce qui se passe? Que devient justement ce territoire, Jean-Paul de Moule?
Eh ben, il devient plus habitable, puisque la moitié nord était très froide et c'était un territoire de steppe. Et donc, après la fin de la dernière glaciation, on était dans une glaciation depuis 100 000 ans. C'est des oscillations de l'axe de la Terre par rapport au Soleil. Et là, donc, le climat se réchauffe.
À quel moment, d'ailleurs? Quelle période, là, quand on parle de dernière glaciation, on est à quelle période, à peu près?
On est entre moins 115 000 et moins 12 000, moins 10 000, à peu près. Et donc, le climat se réchauffe progressivement et une forêt va remplacer la steppe. Les mammouths et les rennes en trop chaud, ils vont monter vers le nord. Et donc, les descendants de Chauvet et Lascaux sont maintenant dans une forêt et contents, apparemment. Mais les rennes et les mammouths sont remplacés par les cerfs, les chevreuils, les sangliers.
Ce qui va préparer le terrain pour une autre façon de vivre aussi, pour d'autres populations qui vont arriver et qui vont choisir la sédentarisation et vont aussi découvrir d'autres pratiques comme l'agriculture. C'est quand même aussi les grands changements culturels qui vont avoir lieu sur notre territoire.
Ça va être un nouveau grand remplacement parce que dans plusieurs points du monde, à la faveur de ce réchauffement, un certain nombre de groupes de chasseurs-cueilleurs, jusqu'à présent la plupart du temps nomades, va commencer à domestiquer des animaux et des plantes. Le principe est connu parce que dans certaines régions, pendant la glaciation, il y a 20 000, peut-être 30 000 ans, des loups avaient été transformés en chiens. Donc ils connaissent, ils sont immergés dans la nature. Donc un certain nombre de groupes vont le faire, pas du tout en Europe. Ils étaient contents sous le couvert de leur forêt, notamment en France. Mais au Proche-Orient, ça se produit, c'est le foyer le plus proche. Et à partir du moment où vous avez la sédentarité, parce que pour avoir l'agriculture en général, il faut être sédentaire, eh bien on va avoir un boom démographique. On va passer en 10 000 ans de 3 millions d'humains sur toute la planète aux 8 milliards actuels.
Donc là, on est encore à la préhistoire.
Oui.
L'histoire n'est pas encore arrivé, donc c'est la proto-histoire,
pour
prendre les termes. Comment se met en place le pouvoir, justement, au fil de cette proto-histoire, Jean-Paul de Moule?
Ce boom démographique qui va être créé par justement la sédentarité, une nourriture beaucoup plus sécurisée, va faire qu'une partie des populations vont partir de chaque foyer. Donc, dans nos régions, ils partent du Proche-Orient, ils vont vers l'Afrique du Nord, l'Europe orientale et donc les Balkans et l'Europe centrale et occidentale. Donc ils arrivent sur l'actuel territoire français. Et quand ils arrivent, ils croisent justement les chasseurs-cueilleurs qui étaient toujours chasseurs-cueilleurs, descendants de Lascaux et Chauvet. Donc ça va être un nouveau grand remplacement. Là encore, on n'a pas de preuve.
Ça va être conflictuel, ça, ou pas, ces rencontres-là?
On n'a aucune preuve de massacre. Ce qu'on voit, c'est qu'au fil des générations, les agriculteurs ont de plus en plus des gènes de chasseurs-cueilleurs. Donc ça veut dire que les chasseurs-cueilleurs, ils disparaissent pas biologiquement, si on peut dire, mais ils disparaissent complètement culturellement.
Mais est-ce qu'il y a quand même un pouvoir qui se met en place, une sorte de hiérarchie, voire une chefferie dans ces villages qui naissent aussi à ce moment-là?
À ce moment-là, ils sont de plus en plus nombreux. En plus, ils ne peuvent pas aller plus loin que l'Atlantique jusqu'à Christophe Colomb.
Ouais.
Donc c'est là qu'on va voir, quand on fouille des cimetières, que tous ne sont pas... égaux, et notamment tous les grands mégalithes de l'Atlantique, les dolmens, sont des tombes pour les gens plus importants.
Jean-Paul de Moule, on va écouter Jacques Chirac. C'était le 14 juillet 1998, sur France 2 et TF1. Voilà ce qu'il disait à ce moment-là.
Vous savez, la France, historiquement, a une origine plurielle. Nous revendiquons en permanence nos origines judéo-chrétiennes, latines, le fait que nous descendons des Gaulois, ce qui n'a rien à voir, et nous avons un pays dont le nom, la France, est emprunté à d'autres tribus, les Francs, qui étaient très différents. Il y a donc un ensemble partagé qui fait peut-être que la France a été le pays qui a le mieux ressenti, compris la nécessité de l'intégration.
Voilà, 1998, le 14 juillet, Jacques Chirac, Jean-Paul de Moule, est-ce qu'il était meilleur que le général de Gaulle, Chirac, sur sa vision justement du passé français?
Les 67, oui, il y avait une trentaine d'années, donc les connaissances historiques, c'était sans doute un peu mieux diffusé dans la...
C'était un amateur d'archéologie, Chirac?
Oui, il avait même... il avait même organisé une cérémonie en l'honneur des archéologues, à l'occasion de deux livres, un sur l'archéologie française que j'avais coordonné, un autre sur l'archéologie française à l'étranger. Et il aimait beaucoup l'archéologie, fréquentait beaucoup le musée Guimet après les heures de fermeture. Et j'ai eu Bernadette Chirac comme étudiante.
Elle faisait l'archéologie aussi, Bernadette Chirac?
Oui, elle avait commencé un master d'archéologie dans les années 70.
Ouais. Donc sa vision-là, elle est assez intéressante quand même. Hein.
Oui, tout à fait.
Il est assez juste, sur dans ce qu'il dit.
Absolument, oui.
À quel moment on peut parler d'un territoire français dans cette histoire déjà qu'on vient de décrire? On va la poursuivre dans quelques instants, depuis les Gaulois jusqu'à aujourd'hui. Mais là, dans cette proto-histoire, est-ce qu'on peut déjà parler d'un territoire français, Jean-Paul de Moule?
Si on est sérieux, non. Parce que, sans parler des Gaulois, on en reparlera, mais l'Hexagone, il commence à prendre forme que sous Louis XIV, et encore, il manque la Corse, Nice, la Savoie, on perdra la Lazare, Lorraine, et je ne parle pas effectivement de l'empire colonial ou des territoires ultramarins.
Donc ce qu'on retient, c'est que la France, elle n'a pas d'origine unique, donc le mythe des racines immuables s'effondre totalement en fait. Dès qu'on remonte dans ce temps long, en fait, ça...
Ça ne nous empêche pas d'être français aujourd'hui, mais on n'est pas français parce qu'on descendrait d'un passé mythique.
Jean-Paul de Moule, on va voir dans un instant comment est née l'idée d'une France politique avec vous. Et puis vous pouvez nous rejoindre, amis auditrices, auditeurs, avec vos messages, vos questions sur le site de La Terre au Carré.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Chevalier de Provence? C'est qui celui-là?
Personne n'est au courant?
Si, j'en ai entendu parler, moi.
Mais vous croyez que c'est vrai, cette histoire? Franchement, ça m'a tout l'air d'un bruit qui court.
C'est le chevalier de Provence ou le chevalier gaulois? Faut savoir.
Mais c'est rien du tout, voilà, n'existe pas.
Ça dépend des sources, mais je crois bien que c'est un chevalier de Provence.
Très exactement, c'est Provençal le Gaulois.
Bah non, c'est moi, ça.
Comment ça, c'est vous?
Bah, je suis pas mystérieux, moi. Je suis même pas solitaire, alors.
Qu'est-ce que vous nous chantez? Vous êtes pas gaulois, que je sache?
Bah, je sais pas si vous faut, je suis de Caerdide.
Mais c'est au pays de Galles, Caerdide. Vous êtes gallois.
Mais c'est bien ce que j'ai dit. Provençal de Gaulois, le gallois. Ouais, je vois ce que vous voulez dire.
Vous êtes pas gaulois?
Ouais, je me suis gouré.
Sans vouloir abuser, il me semble pas que vous soyez provençal non plus.
Non, provençal, c'est mon nom.
Perceval.
Perceval, ouais, qu'est-ce que j'ai dit?
Voilà un extrait de Kaamelott qui montre, Jean-Paul de Moule, toute la complexité de l'histoire de France. Hein, effectivement, vous qui publiez La France éternelle, une enquête archéologique, c'est aux éditions de La Fabrique. Alors, puisque nous en sommes à la Gaule, en quoi justement cette Gaule décrite par Jules César différait de l'image d'un peuple gaulois très unifié qu'on véhicule toujours aujourd'hui?
Ben, célèbre première phrase du livre de César, donc La guerre des Gaules, qui est un des premiers témoignages sur les Gaulois, commence en disant la Gaule tout entière est divisée en trois parties qui n'ont aucun rapport du point de vue des langues, des institutions et des lois.
Donc c'est-à-dire que Jules César soulignait cette diversité déjà.
Absolument. Et en plus, l'actuel territoire français, il est divisé en une soixantaine de petites cités-états, souvent en guerre les unes contre les autres, ayant chacune leur monnaie, etc. Et par ailleurs, l'ensemble s'inclut dans ce qu'on appelle la civilisation celtique, qui va de l'Angleterre jusqu'à la République tchèque. Donc là, on peine à trouver la France, la Gaule, Gallia, pour les Romains, c'est juste une réalité géographique, mais c'est pas une réalité politique.
Donc l'unité gauloise, c'est une reconstruction?
Oui, bien sûr.
Très tardive.
Ben les Gaulois ne sont nos ancêtres que depuis la Troisième République, parce que c'est des vaincus. Ils sont vaincus par les Romains, les Romains sont vaincus par les Francs, les Francs disparaissent culturellement, donc c'est pas bien. Donc dans chaque capitale du monde, il y a un grand musée qui exalte le glorieux passé. Nous, le grand musée, il s'appelle le Louvre, et il n'y a que l'Orient, la Grèce et Rome qui sont les racines culturelles des élites françaises. Donc les rois de France, ils descendaient d'un nommé Francion, rescapé de la guerre de Troie. Les nobles, ils prétendaient descendre des conquérants francs. Et donc les Gaulois étaient très méprisés. C'est pour ça que l'archéologie du territoire métropolitain était longtemps laissée, sinon à l'abandon, du moins aux amateurs qui s'y intéressaient. Et la Troisième République, elle naît d'une défaite, Sedan, donc ça rend les défaites plus acceptables. Elle est aussi en train de coloniser une partie de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est, donc elle apporte la civilisation, et on va trouver dans tous les manuels scolaires, la vie et autres, l'affirmation, de même que nous avons été civilisés par les Romains, de même nous sommes en train de civiliser des populations défavorisées.
Pourquoi la chute de l'Empire romain, justement, est considérée comme un non-événement pour les contemporains, malgré sa portée historique ultérieure?
C'est souvent présenté comme une catastrophe. On oublie que la moitié, quand même, de cet empire, c'est l'Empire byzantin, va durer 1000 ans de plus, même en se réduisant. Et que, progressivement, les populations germaniques sont rentrées dans la partie occidentale, ce qu'on appelait jadis les barbares, les invasions barbares, mais qui en fait étaient déjà, ils étaient tous chrétiens, à part les francs, quand ils rentrent dans l'Empire. Donc c'est un processus extrêmement, extrêmement long. Et classiquement, on fixe comme fin de l'Antiquité, début du Moyen-Âge, le dernier empereur romain, qui s'appelait Romulus Augustule, à la fin du 5e siècle de notre ère, mais qui a été déposé, effectivement, sans que personne s'en aperçoive, parce que c'était déjà, on avait déjà affaire à un certain nombre de nouveaux États, de nouvelles entités politiques.
Il y a la figure de Clovis également, qui est importante. Pourquoi, justement, ça crée une sorte de mythe fondateur du roman national français, le baptême de Clovis à la fin du 5e siècle?
Oui, même le pape Jean-Paul II, quand il était venu en France, avait dit « France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» Ce qu'on oublie, c'est que la Gaule est déjà, et tout l'Empire romain sont officiellement chrétiens. Tient depuis plus d'un siècle, d'abord la conversion de Constantin et après, fin du 4e siècle, de notre ère, ce qu'on appelle l'édit de Théodose, qui oblige effectivement et qui généralise le christianisme. Les temples païens sont transformés en carrière de pierre ou en église, donc il n'apporte pas le christianisme. C'est juste un chef de guerre, effectivement, qui vient de la Belgique actuelle et qui va s'installer dans la région parisienne et puis élargir ensuite vers l'ouest, vers l'est et le sud-ouest. C'est bien que son empire était considérable, mais va n'avoir aucun rapport avec la France actuelle. Et en plus, il sera divisé entre ses quatre fils après sa mort. Donc, c'est aussi un non-événement, comme l'a montré mon collègue Bruno Dumézil sur ce sujet.
Jean-Paul de Moule, après le général de Gaulle et Jacques Chirac, on va écouter maintenant François Mitterrand. C'était le 18 mai 1987. Ça rejoint d'ailleurs beaucoup ce que disait Chirac tout à l'heure.
Nos ancêtres les Gaulois, un peu romains, un peu germains, un peu juifs, un peu italiens, un peu espagnols, de plus en plus portugais. Peut-être, qui sait, polonais. Et je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu arabes.
18 mai 1987, lors d'un colloque sur la France et la pluralité des cultures, c'est organisé à la Sorbonne par l'association France Liberté à l'époque. Une réaction, Jean-Paul de Moule, sur les propos de Mitterrand à ce moment-là?
Oui, mais Mitterrand était un homme cultivé. Et, à la fois, il s'intéressait au passé. Il a lancé des grandes fouilles archéologiques sur le site de Bibrac, le Mont Beuvray, qui était la capitale des Édouins, un des peuples les plus puissants de la Gaule, et qui était d'ailleurs déclaré frère du peuple romain. Donc, effectivement, il parle en connaissance de cause. D'ailleurs, dès 1985, il a un discours inaugural quand il lance ses fouilles au Mont-Beuvray, et c'est le début de la montée de l'extrême droite en France, et il insiste justement sur le fait que l'histoire de France est un perpétuel mélange de populations.
Et ce petit rappel sur la pluralité des cultures, c'est aussi l'objet de votre livre, Jean-Paul de Moule. C'est un objet quasiment politique aussi, aujourd'hui, finalement, de sortir un tel ouvrage. ouvrage, non ?
C'est politique au sens large et noble du terme. Polis, P-O-L-I-S, c'est la cité en Grèce. Donc par rapport au débat et à toutes sortes de distorsions et de manipulations, effectivement, j'ai voulu faire le point sur qu'est-ce qu'on sait actuellement de par l'archéologie et l'histoire pour apporter une pièce au débat sans décider dans un sens ou dans l'autre, mais simplement en montrant la réalité contre un certain nombre de contrefaçons.
Quand vous parlez de manipulation ou de contrefaçon, vous faites allusion à quoi exactement ?
Ben, je sais pas, par exemple, pour ne pas le citer, les écrits de Philippe de Villiers, où on va retrouver dans Mémoricite, par exemple, dont je me suis infligé la lecture, on va retrouver l'idée, tous les poncifs les plus éculés de l'histoire de France. Il raconte comment Attila, le méchant, arrive sur son cheval sous les murs de Lutèce, il voit Sainte-Geneviève et il repart en courant, alors qu'on sait que Attila était suffisamment fréquentable pour qu'une des sœurs de l'Empire romain lui ait proposé le mariage. Donc tout ça ne tient pas, mais ça marche très bien.
Et comment vous l'expliquez, ça, justement, le succès qui se poursuit toujours autour de ces histoires qu'on ne cesse de nous raconter?
Bah parce que c'est, je ne sais pas si c'est vieux comme Homo sapiens, mais en tout cas, il est très classique dans les périodes de crise qu'on dise c'est la faute des étrangers. Parce que l'étranger, c'est toujours le barbare. Chez les Grecs, barbaros, c'est ceux qui savent parler grec. Et donc, il y a toujours eu ce côté bouc émissaire des étrangers. Donc, ça continue depuis très longtemps. Quand on dit les étrangers de maintenant, ils ne sont pas comme avant. Avant, ils étaient mieux. Il y a eu des massacres d'ouvriers polonais, italiens dans le sud de la France au 19e, fin 19e. On a expulsé les ouvriers polonais dans l'entre-deux-guerres qui avaient osé se mettre en grève, etc., etc.
L'idée d'une France, justement, ça a commencé à se construire quand politiquement, Jean-Paul de Moule ?
Pour moi, on peut parler d'une nation qu'à partir de la Révolution française et du romantisme. Avant, on a des rois, donc ils sont de droit divin, mis en place par Dieu soi-même, donc on ne peut que leur obéir. Ils ont des territoires qui vont agrandir par mariage, par guerre, des fois diminuer. Mais c'est, bien sûr, il y a des communautés, il y a des centaines de communautés ethniques rurales dans l'ensemble de la France, où il y a un vrai sentiment communautaire, mais avec une pluralité de langues, de coutumes, d'habillements. Et cette idée d'une communauté de citoyens unis dans un même destin, ça n'apparaît qu'avec la Révolution. Bon, ça fait déjà...
C'est presque paradoxal d'ailleurs que les guerres et les révolutions aient renforcé au fond cette idée un petit peu de cette idée nationale, tout simplement.
Bah, également parce que ce qui est identitaire aussi, c'est ceux qui nous veulent du mal, à tort ou à raison, autour. Donc la France, effectivement, est assiégée par les puissances notamment de la Prusse et de l'Autriche. Donc ça aide aussi à souder ce sentiment national face à l'ennemi.
Jean-Paul de Moule, la France, elle s'est inventée en se racontant, au fond. C'est ce qu'on peut retenir de cette histoire. C'est un vrai récit performatif.
Oui, à partir de la Révolution, effectivement, mais on n'oubliera pas que sous la Révolution, il y a seulement 10% des Français qui parlent le français standard, donc ça a été en même temps très progressif.
Donc, c'est une fiction politique qui est devenue une sorte de croyance collective aussi ? Cette idée du roman national ?
Moi, je me sens français et vivant en France, et je pense que tous les auditeurs françaises et français se sentent français, mais c'est vrai que c'est une construction récente. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Il faut se rappeler que les États d'Amérique latine ne datent que du 19e siècle. La plupart des États africains ne datent que de la deuxième moitié du 20e siècle. Donc, l'idée de l'État-nation est une construction récente et peut-être certainement également provisoire. Des gens comme Victor Hugo, Ernest Renan, qui s'intéressaient à l'idée nationale, ont tous deux dit au 19e siècle, sans doute une fédération européenne remplacera.
Ça s'appelle La France éternelle, une enquête archéologique que vous signez aux éditions de La Fabrique. Jean-Paul de Moule, vous êtes notre invité.
France Inter. La Terre au carré.
Quand vous lisez, même quand vous avez 6 ans, que nos ancêtres étaient des Gaulois, ils étaient blonds avec des yeux bleus, et l'instituteur et nous-mêmes, nous rigolions. Il faut savoir prendre du recul. Personne n'a jamais été persuadé de ça, bien que nous des Martiniquais et que nous étions avant tout des nègres et que nous sommes créolophones.
La voix d'Aimé Césaire, c'était en 1994 sur France O. Jean-Paul Demoule, vous qui êtes notre invité archéologue et qui publie donc cette histoire de la France éternelle, une enquête archéologique aux éditions de La Fabrique, une histoire dans laquelle on comprend bien que l'histoire de France est aussi celle des migrations.
Oui, bien sûr, parce que ça a été... On a évoqué l'arrivée d'Homo sapiens, puis l'arrivée des agriculteurs venus du Proche-Orient. On a aussi des migrations qui viennent d'Europe orientale au troisième millénaire. Après, la première ville française, c'est Marseille, fondée par des Grecs. Il y a des comptoirs étrusques aussi. Puis évidemment, il y a la conquête romaine qui va être un grand emplacement, moins de population que culturelle, hein, puisqu'on est en train de parler une langue descendante du latin, et puis le droit, les monuments, etc.
Donc depuis Homo erectus jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux réfugiés d'aujourd'hui, en fait, l'humanité, notre humanité, elle est en mouvement. Permanent.
Elle est en mouvement permanent. C'est une des choses qui, même si on a inventé l'agriculture sédentaire, les gens n'ont pas arrêté de bouger et ça s'est accéléré à partir du 19e siècle puisqu'on a eu la révolution industrielle qui a aspiré les populations d'abord des régions pauvres de France et ensuite des pays limitrophes et puis aussi beaucoup de réfugiés politiques, polonais, républicains espagnols, arméniens, russes blancs, jusqu'aux pieds noirs, aux harkis et aux boat people. Donc c'est constant.
Est-ce que l'archéologie, donc votre discipline, Jean-Paul Demoule, peut nous aider à penser différemment justement l'immigration contemporaine?
Ça nous permet de prendre effectivement du recul, de voir que ce qui est en train d'arriver avec un taux d'immigrés qui est plutôt inférieur à ce qu'il est dans d'autres pays d'Europe, hein, avec le fait que un tiers des Français ont au moins une grand-mère ou un grand-père né à l'étranger, que ça a toujours été comme ça. Des fois on entend, depuis les invasions barbares jusqu'à l'arrivée des populations du Maghreb dans les 30 dernières années, la France était éternelle et n'a pas bougé, mais c'est pas vrai.
Donc si on cherche la France de souche, c'est pas facile à dire, si on cherche la France de souche, on la trouve pas.
Non, je vois pas comment on pourrait la trouver, puisque c'était effectivement des mélanges constants, maintenant qu'on dispose d'analyses génétiques également, même s'il faut pas confondre la biologie et l'histoire, la biologie et la culture montre effectivement que ça a été des brassages incessants. Ouais.
Et puis, parler aussi de la France hors la France, parce qu'on entendait Aimé Césaire tout à l'heure.
Oui.
C'est aussi important peut-être de le rappeler dans cette histoire.
Oui, parce que de même que l'histoire de France, c'est un petit domaine royal qui a conquis par la force l'hexagone ou par l'achat ou l'échange de l'hexagone actuel, de même, sur cette impulsion, il s'est agrandi à tous les territoires ultramarins que nous connaissons et qui sont censés être français. D'ailleurs, tout le monde a été français en 1946 avec l'Union française et puis après avec les décolonisations, les gens ont changé de nationalité. Mais effectivement, c'est la même chose, mais c'est des Français qui sont quand même assez différents les uns des autres.
Est-ce qu'il y a une archéologie de la colonisation d'ailleurs, Jean-Paul
Demoule? Maintenant, oui.
Qu'est-ce qu'elle révèle, cette archéologie-là?
On a fouillé par exemple des cimetières d'esclaves dans les Antilles françaises, qui montrent effectivement l'état sanitaire déplorable de ces populations. On a fouillé également des habitations, ces fermes entreprises qui fabriquaient le rhum. Donc ça commence.
Et la décolonisation, est-ce qu'elle a modifié notre perception aussi du passé?
Bah, ça a été compliqué pour on voit quand contrairement aux États-Unis normaux qui peuvent parler sans problème de la guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie, c'est toujours actuellement quelque chose de très sensible. Donc il y a toujours un problème autour de la décolonisation, surtout maintenant avec les mouvements de demande soit immatériel, repentance ou autre, soit matériel, rendre les objets qu'on a volés d'une manière ou d'une autre, on voit que ça reste une question très sensible. Là, c'est comme tout deuil, il faut attendre le temps qui passe.
Mais c'est l'occasion de redécouvrir aussi des passés qu'on a partagés et qui ont été longtemps niés aussi.
Oui, bien sûr, notamment les massacres. C'était le mérite du président Macron de faire des commissions d'historiens sur l'Algérie, sur le Cameroun, sur Madagascar, où à chaque fois des massacres de dizaines de milliers de personnes.
Pourquoi, Jean-Paul de Moule, ce thème de l'identité nationale revient aussi souvent dans le débat public, encore aujourd'hui ? Et plus que jamais.
Je pense qu'il y a deux choses. Effectivement, dans une période perçue comme une période de crise, mais je crois que toutes les périodes ont été des périodes de crise. La fin de l'Empire romain, la grande peste du Moyen-Âge, les guerres de religion, les famines de Louis XIV, plus d'un million de morts. Donc on se sent que dans une période de crise. Donc,
qu'est-ce qui la caractérise d'ailleurs, la crise d'aujourd'hui, par rapport à toutes celles dont vous venez de parler?
Par rapport aux Trente Glorieuses où on allait dans l'espace, on guérissait toutes les maladies, on avait des techniques de plus en plus sophistiquées. Quand il y a eu la crise économique à partir de 1973, ben effectivement, on a commencé à s'interroger, mais d'où venons-nous? Et ça, paradoxalement, ça nous a aidés, nous les archéologues, parce qu'on s'est mis à s'intéresser au passé et à l'archéologie, mais ça c'est un point mineur. Donc, quand on est dans ces périodes difficiles où on a vu revenir les maladies qu'on croyait éradiquées ou inconnues, comme le Covid, la vache folle, H1N1, etc., eh bien, on cherche des raisons et donc on cherche des boucs émissaires.
Donc, ce sujet de l'identité nationale, c'est de nature à nous rassurer d'une certaine manière ?
À nous rassurer ou à nous conforter dans la détestation des boucs émissaires.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui affirment que l'immigration menace justement la cohésion du pays aujourd'hui ?
C'est qu'elle reste... j'ai écrit un livre sur une histoire globale des migrations, mais il y a eu une excellente exposition récemment au Musée de l'Homme, justement, qui donnait des chiffres. D'abord, en général, il n'y a que 4% des populations mondiales qui migrent. Il y a 96% qui ne migrent pas. Mmh. Et les chiffres restent relativement faibles par rapport à d'autres pays d'Europe. Il y a un excellent spécialiste des migrations, professeur au Collège de France sur ce thème, François Héran, qui
on a reçu à ce micro, absolument. Oui, et j'invite d'ailleurs les auditeurs et auditrices à réécouter l'émission parce que c'est assez intéressant quand on pose les chiffres, qu'on fait vraiment de la science, qu'on est factuel, d'aborder cette question-là.
Oui, bien sûr. Et les chiffres devraient décourager, mais comme on est dans le fantasme, si vous voulez, ça n'est d'aucune portée. Donc ces espèces de repli dont beaucoup de gens d'ailleurs n'ont pas de, contrairement à vous et moi, n'ont pas de nom français de souche et qu'on voit s'exprimer justement dans les discours xénophobes.
Est-ce que l'archéologie peut apaiser les tensions, à votre avis, aujourd'hui ? C'est un peu votre pierre à l'édifice, cet ouvrage ?
C'est pour ça que je publie, que je parle d'archéologie vers les vrais gens. C'est pour donner du recul, pas avoir l'impression qu'on a le nez contre le pare-brise.
C'est quoi les vrais gens ?
Ce qui nous est arrivé,
les
gens normaux, mais c'était une référence au guignol de l'info qui a été censuré, supprimé.
La France éternelle, puisque c'est le titre de votre livre, c'est finalement une illusion utile ou dangereuse ? Jean-Paul de Moule.
Ça peut être dangereux si ça amène à des comportements violents sur la base mes ancêtres les Gaulois. Il y a beaucoup de mouvements d'extrême droite sur Internet qui s'appellent les Gaulois, ce qui n'a aucun sens.
Allez, on passe aux questions pour vous. Celle de Sylvain qui fait d'abord une remarque. Est-ce que c'est pas tendancieux, dit-il, d'utiliser ce terme de grand remplacement, comme vous l'avez fait expliquer tout à l'heure? Loin de faire vivre une notion scientifique, ça remue toute la vase et la boue de la paranoïa et de la fachosphère, dit Sylvain.
Oui, justement, bah c'est comme je disais tout à l'heure, je l'utilise au second degré pour montrer que bah, si on va jusqu'au bout, bah, il y en a eu tout le temps dans ce cas-là.
Gilles demande, que reste-t-il des langues qui étaient parlées avant que s'impose le français ?
Pas beaucoup, hein, c'est les langues régionales. Sur l'ensemble du territoire français, y compris ultramarin, on a recensé 75 langues régionales, mais la France n'a toujours pas ratifié justement. L'éradication des langues régionales a été faite de la Troisième République par la force, la punition, etc.
Et puis enfin une question de Valérie qui demande si les peuples issus des conquêtes ou envahisseurs ont systématiquement laissé une trace archéologique.
Oui, en général, oui, on connaît bien les différentes populations germaniques, c'est comme ça qu'on...
Grâce à l'archéologie.
Grâce à l'archéologie, les Huns de Attila n'ont pas laissé beaucoup de traces parce qu'ils sont repartis tout de suite dans l'autre sens.
Mais il y a peu de zones blanches finalement.
Non.
Merci beaucoup Jean-Paul Demoule d'être venu à ce micro. Je renvoie sur votre ouvrage utile, très utile, La France éternelle, c'est une enquête archéologique aux éditions de La Fabrique. Merci d'être venu nous en parler.
Merci beaucoup.